Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec ce soir donc pour commenter l'actu, Isabelle Bordry, cofondatrice de Retency, ancienne directrice générale de Yahoo France. C'était où il y a quelques années quand même.
C'était
ça,
quelques années, oui. C'était pas Miaou non plus.
Non, c'était pas Miaou.
C'est site, mon père le site qui disait Miaou.
C'était le site préféré des chats.
Miaou. Absolument.
Ou alors il faut y aller en plein été à la Miaou.
Oh.
J'essaie de me rattraper.
T'as besoin de vacances, chérie.
Il faut partir là. Voilà. Hein. Ça sent
partir,
quand même.
Monsieur.
Allez, plus que 54 minutes, elle va être longue ces 54 minutes, j'ai l'impression. Isabelle est avec nous, donc Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio, ancien journaliste chez LCI. Je prononce bien, hein, ça va.
J'ai rien dit.
Et Salim Nassur, fondateur de Mars avec deux A.
Avec deux A.
Et ancien directeur marketing de Google Europe, c'était il y a quoi ? 3 ans, 2, 3 ans.
À 4 ans déjà,
4 ça, ans passe déjà ça passe vite.
C'est fou. Ouais.
Tiens, on va parler de Google dans quelques instants avec visiblement un projet de réponse à l'Apple Vision Pro, évidemment le masque de réalité virtuelle, et Google qui s'associe avec pas n'importe qui quand même, hein, Samsung et Qualcomm. Ça sera dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on revienne sur un peu l'actualité des réseaux sociaux, parce qu'il y a pas mal de choses entre Facebook qui se fait retoquer par l'UE pour son abonnement sans pub, et TikTok aussi, qui franchement donne un peu le bâton pour se faire battre avec TikTok Lite. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. TikTok a sorti une nouvelle appli qui incite en fait les abonnés à regarder des vidéos. Et en fait, plus ils regardent des vidéos, plus ils suivent des influenceurs, plus ils partagent des vidéos, enfin voilà, plus on fait booster TikTok et on gagne des jetons qui peuvent se transformer après en bons d'achat Amazon qu'on dépense à loisir.
C'est formidable parce que je vois pas en quoi c'est TikTok light.
Non, c'est TikTok fat.
C'est plutôt la version. C'est super size, tu vois.
Ouais, c'est super size. Oui, c'est vrai. C'est quoi? Pourquoi ça?
Pourquoi light? Je vois pas en quoi c'est light.
Non, pas du
c'est
tout.
Encore plus. C'est Monsieur Plus en fait, tu vois.
Ouais.
C'est assez terrifiant.
Ça,
alors évidemment, ils eux disent non, attendez, vous inquiétez pas, ça ne concerne cette histoire d'argent.
Vous inquiétez pas.
Tout va bien se passer, bien sûr. Tout est arrangé.
Oui, oui, oui.
Non, eux disent cette histoire d'argent, parce que c'est d'argent qu'on parle, ne concerne que les majeurs.
Bien sûr.
Bien sûr, parce qu'il
va y avoir un représentant de TikTok qui va aller derrière chaque smartphone
les
pour regarder.
Les mineurs qui trichent sur leur âge, ça n'existe
ça
pas.
Ça n'existe
monsieur.
Pas, bien
jamais.
Sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, c'est assez flippant quand même.
C'est assez flippant, hein.
Oui. Ouais.
Qu'est-ce que tu en. Isabelle, et après on donne.
En fait, déjà, il se rapproche du jeu. En fait, le gaming est partout.
Ah oui.
Et donc là, il se rapproche de plus en plus du jeu, avec en plus du gain d'argent. Mmh. Donc on est vraiment dans un territoire compliqué et qui, effectivement, est propre à générer des addictions très fortes sur les jeunes, et tous les pédopsies s'accordent là-dessus. C'est-à-dire que plus on passe du temps à l'écran, et notamment les jeunes, moins on se socialise, et puis moins on a une capacité de concentration. C'est cette notion de je clique, je j'aime, j'ai des push notifs en permanence, et effectivement vous attirez l'attention. Et l'attention, c'est un critère qui est beaucoup vu par les publicitaires. C'est-à-dire la recherche de l'attention, du temps de cerveau, c'est-à-dire dédié à la publicité. Et donc effectivement, c'est des ressorts qui sont connus depuis toujours, mais qui, compte tenu de la jeunesse de leur audience et de cette notion de récompense financière, est vraiment terrible.
C'est intéressant parce que ça aurait pu être une application tierce. Tu vois, un truc de marque,
oui, c'est
de réseaux sociaux. Mais là, c'est TikTok qui organise son propre.
Enfin, c'est ouais,
light. Je suis d'accord. C'est assez confondant.
Ouais.
Mais ne vous inquiétez pas, c'est light.
Mais c'est surtout machiavélique, non ça,
bah, alors, moi, je trouve
ils s'en cachent pas.
Je trouve ça phénoménal, en fait.
Voilà.
Non, mais c'est vrai. Mais ils sont quand même assez.
Salim va péter un câble, les amis.
Non, mais. Parce que on sait que j'ai comment dirais-je, une croisade contre les réseaux sociaux depuis des années. Mais là, non seulement ils sont en train de se faire bannir de certains États aux États-Unis, on est en train de les regarder, les scruter à la loupe, et eux, même pas peur. Ils disent, on va aller encore plus loin dans le délire, et on va effectivement prendre des techniques du jeu, et qui sont très, très, très pernicieuses, en fait. Hein, si tu veux, là, on rigole plus, parce que moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, et j'ai des enfants, donc je les ai éduqués pour qu'ils ne se fassent pas avoir là-dessus. Mais ils sont en train de reprendre les mêmes techniques.
Tu les as éduqués, peut-être qu'ils sont, maintenant, comme papa n'est pas là, il est sur le plateau Tech & Co. En train d'être sur TikTok.
Fracturer le tiroir aux iPads. C'est ça.
Et on prend le pari. Mais blague à part. En fait, si tu veux, il y a le truc le plus machiavélique qu'ils sont en train de lancer là sur TikTok, c'est la rémunération au temps passé ou au temps non passé. C'est-à-dire que si comme dans des jeux, tu ne reviens pas sur la plateforme, tu vas perdre des points en fait. Et alors si tu reviens régulièrement chaque jour,
tu en gagnes.
Tu gagnes
oui,
des points.
C'est
comme ça qu'ils ont les jeunes dans les jeux. Ils sont en train de faire la même chose sur le réseau social. Et là tu te dis, oh, comme si c'était pas assez addict, enfin, accoutumé quoi. Ils en avaient pas assez. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait quand tu regardes, pour le coup, tu prends un peu de recul et que tu fais une analyse un peu macro du truc, tu te rends compte qu'en fait les chiffres de TikTok sont en train de stagner.
Ah oui.
Eh oui. Et c'est ça qui est important. Donc, ils sont
stagnés.
Comment je remets.
Oui, stagné assez haut.
Stagné, mais la marée était déjà haute.
La marée est haute.
Plus d'un milliard d'utilisateurs, certes. Mais le taux de croissance est moindre. Donc, ils ont dit comment on fait pour remettre une pièce dans le truc.
C'est ça.
C'est exactement ça. Bah, ils ont remis littéralement une pièce. Ouais. Et ils se disent en faisant ça, on va rebooster non seulement le nombre d'utilisateurs, parce que celui qui. Ils ont regardé, je crois qu'il y a. Il y a à peu près 2 à 3 fois moins d'utilisateurs en Europe qu'aux États-Unis, si tu veux. Donc ils se sont dit.
Oui, il y a encore de la marge.
Il y a encore de la marge. Et en plus, on va, et tu as raison, sur l'attention, on va les faire venir encore plus souvent et on va les garder beaucoup plus longtemps parce que chaque action rémunérera.
Et la notion de temps passé. La notion de temps passé, comme en télévision d'ailleurs, est absolument clé pour les annonceurs. Oui. C'est-à-dire l'attention que l'on porte. Exactement. L'attention que l'on porte à l'écran, c'est-à-dire est-ce que vous êtes vraiment devant l'écran ou en train juste d'écouter de manière un peu lointaine, n'a pas du tout la même valeur pour les annonceurs. Donc tout ce qui va dans une démarche qui permet effectivement de s'assurer qu'un maximum de gens sont les yeux rivés sur l'écran est positif en termes marketing et publicitaire.
C'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est une plateforme, Apple aussi, on en parlait il y a quelques semaines, sont en train de tester les limites, comme un ado, les limites. Jusqu'où puis-je aller trop loin avant que le bâton tombe? Et là, typiquement, enfin, je veux dire, dans une société normale, il y a quelqu'un qui aurait dit, non, écoute, John, je pense pas que ce soit le moment.
C'est pas le moment.
Lis la presse. Ouais. Lis la presse.
Je le traduis si tu veux. Il n'y a aucun problème.
Dans une entreprise.
En anglais, on dirait read the room. Tu vois ce que je veux dire? Regarde l'humeur générale quand on parle de nous. Est-ce vraiment le moment de lancer un truc?
Parce que,
addictif.
Évidemment, la réponse de l'UE ne s'est pas faite attendre.
Ah bah.
24 heures après, l'UE a dit, attendez les gars, c'est pas possible. Expliquez-nous ce que vous faites avec TikTok Lite. Et on vous donne 24 heures pour nous répondre. Donc ça va loin quand même. Et là, ça fait l'unanimité dans toute l'Europe. Donc ça va être intéressant de voir comment, quels vont être les arguments de TikTok face en fait aux interrogations de l'Union européenne.
Oui, et tout ça est un peu lié aussi à cette notion d'abonnement que propose Meta. Hein. Oui. Parce que quand on fait en fait le 9 $ là qu'ils proposent, en réalité, quand vous prenez les 3 milliards d'actifs qu'ils ont aujourd'hui mensuels sur la plateforme et que vous divisez les 27 milliards de chiffre d'affaires qu'ils ont annoncé il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, et ben en fait ça fait 9 $ le prix, l'ARPU c'est 9 $. Donc en fait, si vous ne
chaque
donnez...
abonné Facebook vaut 9 $.
En bah en fait, un utilisateur rapporte 9 $ en pub.
Oui.
En moyenne.
Oui, c'est ça.
Un utilisateur, lorsqu'il va sur la plateforme, rapporte à Facebook à peu près 9 $. C'est ce qu'on appelle l'ARPU lorsqu'on suit la bourse américaine. Et chez Google et chez Yahoo, on l'a beaucoup suivi. Donc effectivement, toute l'idée, c'est de dire il y a deux options. Il y a une option abonnement et une option j'utilise la donnée personnelle. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, la donnée personnelle utilisée par Facebook est extrêmement intrusive. Alors que des médias gratuits, par exemple la télévision ou la radio, et c'est aujourd'hui, alors sur le marché français, c'est la moitié, ça reste encore la moitié du chiffre d'affaires investi en pub, n'a pas besoin de savoir si c'est Cédric, Isabelle qui est derrière l'écran. Ils travaillent sur des segments. Donc on arrive aujourd'hui à commercialiser de la publicité sans forcément être extrêmement intrusive dans l'utilisation des données personnelles. Et je pense qu'on est allé trop loin et j'étais la première à vendre le one-to-one en publicité quand j'ai vendu les premiers bandeaux pub sur les pages internet.
On est tous coupables, mais
on est tous coupables. Mais là, effectivement, avec le fait que la donnée soit partout, on arrive à un niveau d'intrusion qui n'est plus acceptable. Alors même qu'on peut vendre de la pub sans être aussi intrusif.
Mais tu la vendras moins cher.
Pas forcément.
Ah si, parce qu'en fait là, mais je suis complètement d'accord avec toi, on est allé beaucoup trop loin.
Pas forcément.
Mais elle sera ultra segmentée, c'est-à-dire qu'à un moment, tu sais, et on le sait depuis longtemps, tu sais déceler quelqu'un qui va être enceinte avant même, si tu veux, qu'elle l'ait annoncé à ses amis.
Parce
que
ça pose
un problème, de par ses recherches, tu vas le savoir. Donc pour un annonceur, se dire je me positionne avant même et je peux lui vendre des choses, tu vois.
Alors,
c'est ça qui est hyper important.
Toi qui étais chez Google.
Oui.
Lorsque tu tapes le mot-clé bébé ou chambre d'enfant, etc., on est complètement dans le contextuel et tu n'as pour autant pas besoin de savoir qui est derrière l'ordinateur. Et cette publicité est extrêmement efficace. Donc en fait, ce que l'on a vendu pendant très longtemps, hein, et qui est du contextuel, qui est une compréhension des segments, fonctionne. Et donc je pense que c'est ce niveau-là qu'il faut qu'on arrive à garder en intégrant toujours une vision de la donnée, parce qu'on a besoin d'analyser la donnée et il ne faut surtout pas se priver de ces informations. Par contre, il faut raison garder dans la manière de les utiliser, notamment au niveau du reciblage.
Non, mais là-dessus, tu as complètement raison. Mais encore une fois, il y a deux choses. Hein. Est-ce que d'un point de vue éthique, il faut qu'on réduise la voilure ? 2000% d'accord avec toi. Après, d'un point de vue marketing, là, pour le coup, je connais très bien le sujet, tu ne peux pas dire que, d'un point de vue marketing, c'est la même chose d'avoir de la métadonnée ou de la donnée un peu plus fine ou de la donnée ultra segmentée. Tu vois, quand on était chez Google, on avait inventé ce terme de micro-moment. Micro-moment, c'est quoi ? C'est finalement, tu te rends compte que les gens utilisent leur mobile au moins 150 fois, tu vas unlock ton mobile par jour. Et donc, à chaque fois que tu fais ça, c'est un moment où on peut te placer quelque chose, si tu veux. Mm-hmm. Donc là, c'est important de justement être dans l'hyper-segmentation et l'intention. Ouais. Alors, en plus, si tu géolocalises ça avec l'endroit où il est, donc à un moment, c'est pas la même chose de se dire François est devant un McDonald's, on va dire, pour pas nommer une marque, et je lui envoie la pub à ce moment-là, et hop, il a faim et il rentre dedans, que si il vient de sortir de gastronomie, et tu vas pas lui renvoyer la même chose. Donc l'ultra spécialisation et personnalisation est importante. Après, je suis d'accord, il faut pas aller aussi loin. Mais c'est beaucoup plus puissant d'un point de vue marketing.
C'est difficile de revenir en arrière quand on a goûté à ce genre de drogue dure quand on est marketeur. C'est-à-dire que c'est.
Bien sûr. C'est le Graal.
C'est comme si tu demandes à un ministre de l'Intérieur s'il veut plus ou moins de caméras. Enfin, c'est
pas. Non, mais à la fin de la journée, c'est combien on gagne. Et je pense qu'on peut avoir un chiffre d'affaires tout aussi significatif en commercialisant de la pub, en protégeant l'individu, tout en ayant suffisamment d'informations sur éventuellement un contexte, un lieu, etc. La pub est tout aussi efficace que de savoir si c'est Cédric ou Isabelle qui est derrière.
Bah après
vas-y, pardon.
Juste, parce qu'on va essayer d'avancer, parce que là, on tourne un peu en boucle sur ce sujet. Mais ça va être aussi, je pense, la régulation et la réglementation qui va signer la fin de la récré.
C'est-à-dire je pense qu'au bout d'un moment,
les utilisateurs, mais aussi, je pense que les règles que l'UE est en train de mettre en place va faire en sorte que tous ces géants vont être obligés de trouver une autre solution.
Bien sûr,
en fait. Et je voulais juste revenir sur TikTok Lite, parce que pendant que vous discutiez, je regardais l'appli sur l'App Store.
Ça se dit TikTok Lite.
je regardais sur, effectivement, on peut la trouver sur l'iPhone, hein, vous pouvez télécharger TikTok Lite, mais les notes sont pas bonnes du tout.
Ah oui,
en fait, l'appli a 2,7, et les gens se plaignent parce qu'ils disent, mais en fait, il n'y a pas de différence avec TikTok, je gagne pas de points, je sais pas comment faire pour gagner de l'argent, etc. Donc il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, je vais peut-être avoir des petits bons d'achat Amazon, etc. Logique. Ce qui est tout à fait logique, mais visiblement ça marche pas bien, et c'est compliqué, c'est pas clair. Donc on sait qu'une appli qui est mal notée, c'est pas bon, hein, pour les développeurs. Donc,
oui, mais si c'est juste une question du X, ça peut s'arranger.
Oui,
c'est clair. Et les débuts sont pas terribles, on va dire.
Demain, voilà. Tu donnes 1€ à chaque action, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui va revenir rapidement. Tu vois.
C'est clair.
Donnez-nous votre avis. Vénal, hein.
Et donc, après TikTok Lite, moi, je voulais qu'on évoque, justement, tu as commencé à parler de ce sujet, c'est Facebook, qui est donc retoqué par l'UE. Faisons un petit peu l'histoire. Hein. Facebook s'est retrouvé un peu au pied du mur avec la réglementation européenne qui l'a obligé à proposer une offre sans pub. Ok, c'était pour le DSA. Donc là, on était à la fin de l'été dernier et Facebook a dit pas de problème, les gars. Moi, j'adore l'Europe. Je vais proposer un abonnement à je sais plus combien. Je crois que
c'était 20. C'était très cher.
C'était 20 dollars.
Ouais.
Enfin,
ouais,
un truc complètement dissuasif. Qui va donner 20€ pour ne plus avoir de pub sur Facebook, quoi. Enfin, voilà. Quelques mois après, ils se sont dit bon, parce que l'UE a dit, attendez, 20$, vous foutez de notre gueule, c'est pas possible. Divisé par deux, quoi. Enfin, en tout cas. Faites quelque chose. Ils sont passés à 10. Et là, l'Union européenne revient en disant, il faut trouver une autre solution. Parce que payer, en fait, c'est discriminant, en quelque sorte. Et ça va être intéressant de voir comment Facebook, parce que la Facebook est vraiment au pied du mur, doit réagir. Comment Facebook va arriver à convaincre l'Union européenne que, finalement, son modèle économique, c'est le ciblage publicitaire. Ce que ne veut pas, en fait, l'Union européenne. Si j'ai bien compris.
C'est quoi la demande ? La demande, c'est qu'il y ait un Facebook gratuit sans publicité ?
C'est qu'il y a un Facebook qui utilise de manière moins intrusive les données personnelles.
C'est-à-dire que tu peux avoir de la pub, mais qui il faudra qu'elle soit moins ciblée, qu'elle ponctionne moins en fait tes données personnelles.
Je comprends. Mais pour faire l'expérience quotidiennement, parce qu'il y a des grands sites, YouTube par exemple, j'ai demandé à ce que YouTube ne me donne pas de pub contextuelle. C'est plus une expérience sociologique qu'autre chose. Du coup, je racle le fond de la cuve des pubs dont personne ne veut, qui
c'est
n'ont
vrai
souvent
que c'est
aucun
pas terrible.
Rapport avec moi.
C'est absolument pas terrible.
Et c'est intéressant parce que on a tellement été habitué à avoir des pubs hyper ciblées sur ton sexe, ton âge, ce que tu fais dans la vie, où tu habites, quelle voiture tu conduis, que tu es tellement habitué que parfois on te montre une pub et tu dis mais ce n'est pas moi,
mais c'est pas moi ça. Mais comment osez-vous me parler d'itière pour chat? Je n'ai pas de chat.
Mais je n'ai pas, enfin, je n'ai pas de futurinaire. Arrêtez avec ça.
Je n'ai pas. Voilà.
Non, je vous conseille d'essayer juste une semaine.
Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est un peu déjà le cas chez Facebook avec, on va dire, le serrage de vis qu'avait mis Apple en place il y a 2 ans.
Oui. Alors, je sais pas trop, et pourtant je suis assez pour la réglementation de et notamment de l'Union européenne. Je sais pas trop où ils veulent en venir en fait, parce que le modèle est compliqué. Tu vois, tu parlais de YouTube tout à l'heure. Mm-hmm. Bah YouTube, soit tu payes un abonnement premium et tu n'as pas de pub, et c'est je crois 10€ à peu près, 9-10€. Soit tu ne payes pas ton abonnement premium et tu as de la pub, et en plus il te manque des fonctionnalités, etc., etc. Donc c'est quelque part ce que vient de proposer Facebook. Ils ont dit, écoute, tu payes 9€, t'as pas de pub, ou tu payes pas et t'as de la pub. Et je sais pas où on va là avec
c'est la façon dont c'est arrivé.
Non,
parce
je pense que la difficulté, c'est l'utilisation de la base de données qui est générée par la navigation des gens qui sont dans la partie non pub. Et en fait, effectivement, ça rejoint. Il y a eu la fin des cookies tiers où on est en train de mettre la fin en fait du suivi de la navigation entre les différents sites. C'est-à-dire que les publicitaires savaient lorsque vous naviguez sur l'internet l'intégralité de vos navigations. Donc ça donnait une information absolument colossale sur vos centres d'intérêt et donc sur cette capacité de ciblage. Et c'est ce que faisait très bien Facebook, parce que quand vous likiez du Facebook sur un autre site, qui pouvait être un site de santé, etc., et ben ils avaient immédiatement l'information qu'ils utilisaient après sur le mur que vous utilisiez chez Facebook.
Et c'est Pixel Facebook.
Donc en fait, c'est toute cette notion-là, je pense, que l'Union européenne regarde, c'est de dire... De nouveau, n'arrêtez pas toute la pub, bien sûr.
Oui, on sait que c'est leur modèle
économique.
Mais
en termes d'utilisation de données personnelles, il faut effectivement raison garder, parce que vous allez avoir un Internet à 2 vitesses. Vous allez avoir ceux qui sont capables de payer les 9$ et ceux qui ne vont pas être capables de payer les 9$ et qui vont être obligés de donner leurs données personnelles.
Oui, mais
ça pose un vrai problème de société.
Encore une fois, et je connais pas bien le dossier, donc j'aurais pas me...
En gros, l'Union européenne dit ceci. Soit il faut que vous trouviez une solution d'un Facebook qui ne récolte pas les données personnelles. On ne veut pas d'un abonnement payant. Voilà.
Oui, c'est le cas.
Et après, on a le choix.
Aujourd'hui.
Oui.
C'est là où je comprends pas, en fait.
Non, mais après, on a le choix. C'est-à-dire que soit tu choisis d'avoir de la pub ciblée et ton Facebook ne bouge pas, mais si tu refuses, Facebook... est obligé de proposer une alternative gratuite avec de la publicité non ciblée.
Non ciblée.
En gros, c'est ça.
Ah, mais c'est mon YouTube, ça, c'est exactement ça.
Voilà.
C'est gratuit,
oui,
mais
YouTube,
la pub n'est pas ciblée.
Non,
il y a de la pub, mais elle n'est pas ciblée.
Non, elle n'est pas ciblée.
La pub est ciblée. La pub est ciblée sur Spotify. C'est pour ça que je ne comprends pas, en fait. Parce que là, on attaque, et je ne suis pas un grand fan de Meta, et tu le sais. Mais là, on attaque particulièrement Facebook.
Mais là, on rentre dans des aspects techniques qui sont très intéressants.
Où on n'attaque pas les autres, en fait. C'est là où je ne comprends pas. Mais encore une fois, je connais pas le dossier.
Comme disait Isabelle, c'est une espèce de besoin de proportionnalité entre la richesse des données que tu exploites, juste pour cibler une publicité. C'est-à-dire que.
Absolument. Voilà. Et je pense que l'enjeu est là. C'est jusqu'où on peut effectivement utiliser la donnée personnelle et qu'est-ce qu'on stocke à des fins publicitaires.
Et tu vois, alors évidemment, comme tout le monde, je regarde YouTube et comme tout le monde, je peste devant la publicité. Je pense que je vais craquer, je vais passer
un abonnement premium.
Voilà, c'est ça. Mais je trouve que la pub, elle est beaucoup moins bien ciblée que chez Meta, par exemple. Tu vois, on se retrouve souvent avec de la publicité qui ressemble à de la publicité télé. C'est des petits spots de quelques secondes ou alors de 30 secondes parfois, mais que tu pourrais très bien voir à la télé. C'est pas aussi bien ciblé, tu vois. Et c'est peut-être ça que l'Union européenne reproche, en fait, à Meta.
Ah, parce que, il récolte moins de données sur YouTube. Deux, parce que... Alors, c'est pas parce que je suis un ancien de Google, mais Google a toujours été plus éthique par rapport à l'utilisation de la donnée que chez Meta. Enfin,
bien sûr.
Il n'y a jamais eu de Cambridge Analytica chez Google.
Bien sûr. Prudent. Mais le premier pitch de Zuckerberg, c'était ça. C'était expliquer, on va tout connaître sur nos utilisateurs, leurs choix alimentaires, avec qui ils vivent, comment ils vivent, et on va pouvoir leur envoyer toute la publicité du monde. Donc c'était, vraiment les premières slides, son idée, c'était l'ultra-ciblage et une connaissance intime de tous ses utilisateurs.
Voilà pour ce sujet. On y reviendra, bien sûr, parce que je pense que... voilà.
J'irai me documenter. Parce
que... Mais Meta aussi doit se gratter la tête, là, pour trouver une solution, parce que en plus, là, les délais sont très, très courts. Ça va être intéressant de voir tout ça. Je pense que Fred y reviendra la semaine prochaine dans le débrief de l'actu tech. Il nous reste quelques minutes. On évoque, encore une fois, on va dire, ces géants, Google. Cette fois-ci associé à Samsung et à Qualcomm, donc du hardware avec du soft, tout simplement pour essayer d'avoir une réponse plausible à l'Apple Vision Pro et puis aussi au Meta Quest, parce que voilà, il n'y a pas que le Vision Pro qui se lance dans la VR, Meta y est depuis plusieurs années avec le rachat d'Oculus. Et c'est intéressant de voir que commence à bruisser quelques rumeurs concernant la Google I.O., Cédric.
Oui, c'est ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est quand même des géants qui auraient pu choisir, un peu à l'ancienne, d'y aller chacun dans leur coin. C'est-à-dire, un Google aurait pu quasiment tout faire.
Oui, comme ils font leur téléphone tout seul, en fait, maintenant.
Par exemple, un Samsung. Alors là, eux, ils ont tout. Ils ont les capteurs, ils ont les... etc. Oui,
Il leur manque l'IA.
Alors, il leur manque des briques logicielles, ça, on est d'accord. Mais surtout, peut-être qu'ils ont été très lucides sur l'état du marché, en se disant, il faut le faire parce que c'est quelque chose qui doit avancer jusqu'à ce que, voilà, on croise enfin la route de la demande.
Parce que pour l'instant, elle n'est pas là.
Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de dépenser chacun des milliards dans son coin? Autant le faire.
Diviser par trois. On divise l'addition par trois, quoi.
Voilà.
C'est ça. Comme un bon resto entre potes.
Exactement. Ouais. Ça peut donner un truc intéressant. Parce qu'il y a une vraie force, à la fois industrielle de côté, de pure technologie de l'autre, de design et d'usabilité.
Est-ce que Google est prêt pour la VR et pour ce type de, on va dire, d'expérience que le Vision Pro propose? Alors je dis ça parce que tu as travaillé chez Google, même si ça fait quelques années que tu n'y es plus. Ouais. J'imagine qu'il y avait déjà des éléments de réponse à l'époque.
À l'époque, ils étaient plus prêts que les autres, si tu veux. Je me souviens, j'en ai parlé pas mal avec Clay Beaver, d'ailleurs, qui vient de monter une boîte. Lui, il est parti de la VR, il est parti maintenant sur l'IA complètement et des chatbots, etc. Mais donc c'était le patron de la VR chez Google, et il y a eu des tonnes d'expérimentations qui ont été faites. Il y avait une vraie avancée à l'époque. Après,
et il est parti pourquoi, en fait? Tu penses que c'est parce que Google mettait en pause ce projet-là, ou c'était parce qu'il avait...
D'une part, et d'autre part, parce que il a remonté un truc avec un ancien Salesforce.
D'accord.
Au bout de 10 ans, quand même, à un moment, tu finis par... Ouais, moi, je suis parti au bout de 8 ans. Enfin, il y a un moment, il y a d'autres choses
que Google, c'est clair, dans la vie. Mais tu vois, par exemple, le patron de l'Apple Card d'Apple est parti, et puis 2 ans après, Apple a décidé d'arrêter l'Apple Card. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, j'entends. Mais donc, non, pour revenir à ta question sur est-ce que Google est prêt, aujourd'hui... Je pense qu'ils ont des bonnes bases, mais c'est comme l'IA, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'avance à un moment. Je pense qu'ils ont pris un petit peu de retard parce qu'ils ont été un peu sur beaucoup de choses et finalement pas grand-chose en même temps. Et qu'aujourd'hui, ils sont en train de rattraper. Là où je diverge un petit peu par rapport à votre histoire de « on coupe la facture en trois », je ne pense pas que ce soit ça le sujet, en fait. Le sujet, parce qu'ils ont... Google a 60 milliards en cash flow, si tu veux. C'est pas la question de l'argent. C'est de se dire... Quel est mon corps métier? Quel est mon corps business? Et je vais me spécialiser là-dessus. Tout comme sur le S24, par exemple. Bah, le hardware, c'est Samsung. Le software et l'IA dedans, c'est Google. Bah, là, ils vont faire la même chose sur la VR. Se dire, OK, nous, on est bon là-dedans. On va se spécialiser là-dedans. Et on va faire plutôt une alliance. Et ça redevient quelque chose...
Ça permet d'aller plus vite.
Ça permet d'aller plus vite. Et d'être beaucoup plus pertinent sur ce que tu fais. Parce que l'expérience de Google Glass... a été quand même assez traumatisante chez Google. Ouais. Elle a investi du temps, de l'argent, de la com, plein de choses. Donc se dire, on revient peut-être avec des gens qui savent faire aussi du hardware.
Oui, et puis c'est aussi définir ensemble des plateformes communes, des standards, parce que c'est les choses dont on a besoin pour que les développeurs s'en emparent et pour enfin trouver les applications qui feront qu'on aura envie de l'acheter.
Et moi, je trouve ça en fait assez fascinant. Je ne sais pas en combien de temps. C'est un peu comme les robots dont on parlait tout à l'heure. En fait, cette espèce de projection d'un univers... qui mixte le digital et la réalité, puisque c'est vers ça qu'on va, en fait. C'est la capacité, avec les yeux, de pouvoir effectivement ouvrir son mail, etc. Donc, c'est ce spatial computing que je trouve assez fascinant, et on va y arriver. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir son extension, parce qu'aujourd'hui on est tous augmentés avec son téléphone, on va être augmentés avec des projections autour de soi. Et je trouve ça assez incroyable.
Imagine quand ce sera TikTok Lite.
On likera en un clin d'œil et ça sera formidable.
Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est que finalement, bon, le Vision Pro est sorti il y a quoi ? Il y a 2 mois et demi. Mm-hmm. La hype est retombée. On en parle beaucoup moins.
J'avais raison.
Oui.
Tu vois ?
Oui. Alors moi, j'ai mon avis là-dessus. C'est un marathon, pour rappel.
Oui.
Et effectivement, là, bon, voilà, le soufflet de la nouveauté, de l'annonce est retombé, mais c'est pas pour autant qui sont pas dans la bonne voie.
C'est le problème de la R&D, hein.
Ouais, non, mais regarde,
on investit, on arrête, on recommence,
non, mais, voilà, c'est ça.
On réoriente.
Mais ma question, c'est que est-ce qu'ils se sentent obligés d'avoir une réponse ? Est-ce que la concurrence est tellement forte que Samsung, Google et Qualcomm sont obligés de dégainer aussi une alternative à ce que fait le Vision Pro?
Je pense que c'est un vrai sujet.
Alors ça marche pas aujourd'hui, Google... on est d'accord. Hein.
Non mais en fait, si tu veux, et tu as la photo derrière toi que tu ne vois pas, mais le casque, tu vois, aujourd'hui, c'est pas le bon form factor, et je le dis depuis longtemps, si tu veux. C'est pour ça que Meta, pour moi, ils sont plus proches. L'avoir fait l'association avec Ray-Ban et commencer à avoir des lunettes qui vont pouvoir te faire des choses. On revient au Google Glass finalement. Mm. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour toi,
oui,
en tant qu'utilisateur, et accepter en face que de trimballer tout le temps avec un gros casque comme ça sur la tête. C'est impensable. Tu ne peux pas te dire que ça va fonctionner d'être en société avec quelqu'un qui a un casque, même si tu.
En fait, c'est l'avenir du téléphone.
Oui, c'est ça. C'est l'avenir du téléphone.
On a le téléphone aujourd'hui dans sa poche et il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc qui va changer à un moment donné. Il va y avoir la rupture technologique qu'on évoquait. Alors, est-ce que c'est des lunettes ? Est-ce que c'est une projection ? Est-ce que ça va être effectivement un pins qu'on va porter ? Je n'en sais rien. Mais effectivement, à un moment donné, on va sortir du téléphone.
Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. On verra bien comment tout ça évolue. Ce sont que des rumeurs. Hein. En théorie, on devra en savoir plus durant la Google I.O. qui aura lieu en mai prochain. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Isabelle
Abordry,
cofondatrice de Retency et ancienne directrice générale de Yahoo France. Merci à Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio et ancien journaliste chez LCI. Salim, merci à toi.
Merci.
Salim Nassur, fondateur de Mars avec 2A.